Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du prophète de l'islam, Mahomet, Mohammed, sa seconde vie, c'est le titre choisi par Nedim Goursel pour évoquer la figure du prophète, notamment dans la littérature, du temps du romantisme, mais avant cela, cette figure qui a traversé tout le Moyen-Âge, finalement, jusqu'à l'époque contemporaine. Nedim Goursel, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir et merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes chercheur au CNRS, vous enseignez à l'INALCO, vous êtes essayiste, romancier, auteur de nombreux ouvrages. Et cette dernière monographie, la vôtre, concernant le prophète de l'islam, vous avez souhaité l'intituler « La seconde vie ». Alors, il en avait une, et puis celle-là diffère, complète, est-ce une autre de la première ?
Oui, comme tout être mortel, le prophète de l'islam n'a eu qu'une seule vie. Mais j'ai essayé dans cet ouvrage d'analyser la construction de son image en Occident, notamment dans la littérature. Alors, la littérature, parfois légendaire, parfois fictif, comme ça doit l'être, lui a attribué une autre vie. C'est pour cela que j'ai intitulé mon livre « La seconde vie de Mahomet », mais il y a aussi un sous-titre, donc « Le prophète dans la littérature ». Car vous avez parlé tout à l'heure de monographie, mais ce livre n'est pas tout à fait une biographie du prophète de l'islam. Il y en a tellement.
Oui, vous avez choisi de nombreux auteurs, de nombreux écrivains, des penseurs, des philosophes. Nous verrons tout cela ensemble. Et à juste raison, quand vous parlez de seconde vie, par moment, elle se recoupe avec celle classique désormais qui nous est parvenue selon les curricula vitae au pluriel, selon la sira, ce terme arabe qui veut dire un curriculum vitae, mais en réalité c'est une sorte de légende au sens premier du terme, qui est un récit de vie, mais une légende dorée d'un côté, et nous verrons cette construction dans l'imaginaire occidental, comment ça s'est fait à travers l'histoire. J'ai été frappé, nous le savions avant, mais vous l'avez si bien recensé, de cette figure, la figure prophétique qui était prise en tenaille en quelque sorte entre un homme adulé à l'extrême par ses adeptes et toute la tradition islamique et d'un autre côté au centre d'une légende noire.
Oui, j'ai surtout parlé de la légende noire puisque mon propos c'était donc encore une fois étudier la perception du prophète de l'islam en Occident. Mais cette perception a évolué au cours des âges. Au Moyen Âge, il est considéré comme un imposteur, même comme un hérétique, car tout au début, notamment Jean Damascène, par exemple, considère que c'est une hérésie du christianisme, l'islam. Et puis, le faux prophète, voilà un terme qui revient souvent dans le discours des gens qui, pour justement défendre le christianisme, ont essayé donc de considérer Mohammed comme un faux prophète. Mais après, cette les gens noirs, comme vous l'avez dit, évoluent et, par exemple, les romantiques ont fait du prophète de l'islam un héros, oui. Comme Victor Hugo, peut-être que nous reviendrons
bien sûr, on arrivera
là-dessus. Donc, j'ai étudié, disons, la dimension historique de l'évolution de cette image.
Nous verrons sur la tapisserie des siècles, avec l'écoulement du temps et cette fresque historique, comment cette évolution va se faire. Et peut-être avec quelques résonances en ce qui nous concerne maintenant, puisque vous arrivez jusqu'aux caricatures et jusqu'au verset satanique de Salman Rushdie. Revenons, si vous voulez bien, depuis Jean Damascène jusqu'à peut-être la traduction pour la première fois sur ordre de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, du Coran. Le prophète de l'islam se présente ou est présenté comme un hérésiarque, un possédé, un schismatique, un imposteur, un menteur, l'antéchrist ou précurseur de l'antéchrist. Ça n'apparaissait pas excessif ou c'était dans l'ordre naturel des choses?
Je crois qu'il faut considérer donc dans la diachronie ce refus par rapport à la conquête musulmane. Parce que le monde chrétien a vécu cette inquiétude à juste titre, car la conquête musulmane, son expansion fut très très rapide. Donc l'islam représente un danger réel pour le monde chrétien. Et puis par rapport au dogme du christianisme, l'islam pousse encore le monothéisme jusqu'à son paroxysme, l'unicité d'Allah, le tawhid, évidemment. Dans le dogme chrétien, il y a la Trinité, et c'est beaucoup plus compliqué, alors que l'islam prêchait depuis le début un monothéisme absolu. Et si le monde chrétien, disons l'Occident, s'intéresse à l'islam et s'il le refute, c'est aussi par rapport à cette peur qui s'est emparée. Donc des gens, des croyants à l'époque. Mais Pierre le Vénérable, par exemple, s'il a fait traduire le Coran, c'est pour le combattre. Mais en même temps, c'était une bonne chose que le texte existe déjà.
Et c'était même une bonne démarche.
Sinon, tous les fantasmes étaient possibles.
Oui. Et quelque part, il y a un léger progrès, au lieu de projeter sur autrui, comme vous dites si bien, toute cette fantasmagorie, autant avoir des éléments sur lesquels on pouvait se baser, afin de les réfuter. Certes, c'était cette logique-là. Et Nedim Goursel, vous évoquiez justement à un moment donné, et notamment en Andalousie, je ne dirais pas cette mode, mais à un moment donné, cette recherche du martyr de la part de certaines grandes figures du christianisme d'alors, qui consistait à injurier le prophète publiquement afin de mourir et ainsi de mourir en martyr, afin de prolonger la longue liste du martyrologe chrétien. On a, à titre d'exemple, quelques-uns comme un certain Euloge, par exemple, à Cordoue, et puis d'autres qui publiquement tenaient à ne pas se rétracter et n'incombaient à ce moment-là au prince que de procéder à l'exécution. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté.
Oui, il y a eu ce discours, disons, de martyrologie, mais en même temps des faits réels. Il y a eu des figures, comme vous avez dit, comme Eloge et comme d'autres, comme par exemple
Paul Alvar
aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'arabe, par exemple, Comblanc, s'est imposé. Et il y a eu aussi de la part du gouvernement à l'époque de faire de cette nouvelle civilisation une référence en Andalousie. Et ça gênait beaucoup les chrétiens. Et peut-être que ce refus peut être considéré comme une protection aussi des valeurs propres au christianisme.
D'autant plus qu'on a la grande figure, donc le prophète de l'islam, Mahomet, qui est présenté comme étant l'antéchrist annoncé dans le livre de Daniel. Donc ça devenait difficile de s'accommoder avec une tradition religieuse qui venait s'imposer ou s'implanter, dont la figure principale était annoncée ou perçue ou présentée comme étant celle qui est annoncée par, comme l'antéchrist dans le livre de Daniel.
Oui, il y a eu aussi évidemment Dante, quelques siècles plus tard, qui a mis dans Divine Comédie le prophète de l'islam au fin fond de l'enfer.
Le pandémonium, le lieu de tous les démons, voilà. un cercle près.
Donc, parce que, aux yeux du grand poète que fut Dante, Mahomet était schismatique, donc c'était leur place.
Alors que,
selon lui.
Oui, oui, bien entendu. Ce qui n'était pas la place d'Avicenne et d'Averroès, ou même d'un Saladin, qui ne subissait pas, parce qu'ils étaient les maîtres de ceux qui savent, pour Averroès et Avicenne, et ce n'était pas comme le schismatique Mahomet, qui se trouvait à un cercle près, parce que sinon il aurait été même en compagnie de Satan. Et même, vous le dépeignez à juste raison, comme quoi il était fendu avec les tripes à l'air, etc.
Ah, il y a une description très, très négative. Mais ce qui est intriguant, c'est qu'il y a aussi Ali qui l'accompagne.
Ah oui, oui, son...
Donc, ce qui veut dire que Dante avait quand même une certaine connaissance de l'histoire de l'islam. Donc, il était peut-être au courant aussi... et du schisme, car il faut utiliser ce terme, après la mort du prophète, il y a eu évidemment entre le clan d'Ebou Bakr et le clan d'Ali un conflit historique, réel.
Une discorde.
Voilà, une discorde.
Oui, 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 enfin, c'est l'appellation consacrée, mais vous avez raison de parler aussi de conflit. Et pour rester un moment sur la Divine Comédie de Dante, ça a donné lieu... plus tard à ceux qui l'ont illustré, et même à certains peintres, c'est pour dire que la figure continue, y compris dans l'art pictural, à Giovanni da Modena, par exemple, de le présenter fidèlement à la description de Dante, c'est-à-dire que le corps était fondu et ouvert, et sans entrer dans des détails scabreux, ni scatologiques, des tas de choses qui sortaient de lui. C'était pas quelque chose d'agréable à voir.
Oui, dans mon livre « La seconde vie de Mahomet », j'ai aussi un peu analysé une fresque qui se trouve à Bologne.
Oui.
Voilà. Donc, pour des gens de l'époque, le prophète de l'islam méritait tout cela. Et donc, ces illustrations, évidemment, déforment la figure. Mohamed. Mais en même temps, ça nous donne une certaine idée sur la perception de sa personne, de sa figure. Et c'est ça qui m'intéressait. J'ai essayé d'analyser justement, encore une fois, cette construction de l'image, cette perception.
Et elle reste, parce qu'elle est transmise de génération en génération et elle marque la psyché de l'ensemble de la chrétienté, pour utiliser un terme approprié pour cette époque-là. Et donc ça pouvait mobiliser, y compris dans les conflits, et notamment lors des croisades.
Voilà, c'est pour cela que j'ai parlé aussi des Sarrasins, comme on les appelait à l'époque, mais aussi des chansons de
la geste, chanson
de la geste où nous trouvons aussi le prophète... qui ne correspond pas, disons, à la réalité historique telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Oui. Alors, comment l'histoire de la... nous aurons aussi à y revenir, de l'ascension céleste et de la chevauchée nocturne était aussi perçue comme une fabulation, une réalité, donc... On sort maintenant de l'image, on a dit qu'elle était noire et ça a commencé à évoluer. Maintenant, c'est sa vie en tant que telle et les épisodes importants de cette trajectoire de vie, comment était-elle aussi perçue? C'est un mensonge, une invention, une fabulation. Je m'attarde sur l'ascension céleste.
Oui, ce qu'on appelle le mirage. Il faut dire que dans le Coran, c'est très peu mentionné. Il y a juste un verset qui se réfère à cela, mais il y a eu évidemment la légende. D'ailleurs, les sources les plus anciennes, comme Ibn Hisham ou Tabari, en parlent en fabulant un peu.
On dit souvent qu'à la concision elliptique du Coran, inversement, on a eu droit à une prolifération excessive de la part des biographes ou des traditionnistes, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté la tradition.
Donc, il y a eu, à cette époque, un livre qui a été écrit et traduit dans plusieurs langues européennes de l'époque. C'est le livre de l'échelle de Mohammed, qui décrit en détail ce voyage des célestes et qui est très intéressant, évidemment. C'est une sorte de récit fantastique, car le prophète rencontre d'autres prophètes lors de ce voyage, mais aussi la question qui se pose, est-ce qu'il a vraiment rencontré Allah ou pas? Donc c'est un récit très très intrigant, il y a un suspens. Et la Divine Comédie aussi, en écrivant la Divine Comédie, Dante serait aussi influencé par ce livre, le livre de l'échelle de Mohammed.
À juste raison, vous évoquez tout le tollé provoqué par Miguel Assini Palacios, cet orientaliste madrilène, qui, en soutenant cette thèse, et même en disant que la Divine Comédie de Dante serait, ou est pour lui, un pastiche de l'épître au pardon, ou l'épître du pardon de Ma'ari, qui lui est mort en 1057, plus l'ouvrage « L'échelle de Mahomet », les deux réunis ont influencé Dante. Et l'équivalent de Virgile ou de Béatrice, on les trouve avec l'ange Gabriel, par exemple, dans l'épître au pardon, l'épître du pardon, selon les appellations de Ma'ari. Ce tollé ou cette provocation perçue comme ça, finalement, a provoqué des remous. Mais ça s'est retombé. Et vous souscrivez à la thèse de Miguel Assini Palacios ou pas?
Non, moi je constate et j'analyse, je n'adhère pas. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est le côté romanesque, car nous avons affaire à un récit. Maintenant, pour les croyants, comme c'est mentionné dans le Coran, et comme pour un croyant, le Coran est la parole d'Allah, alors on peut y adhérer, on peut vraiment croire qu'il a fait ce voyage céleste. Mais là-dessus, comme vous savez, il y a un débat. Est-ce que c'était dans le rêve ou est-ce que il est vraiment monté sur Bourak oui. En compagnie de Djibraïl?
Cher Nedim Goursel, ma question n'était pas sur, je ne serais jamais permis, sur votre adhésion ou pas au récit en tant que tel. Bien sûr que le débat est là. Est-ce un récit incorporé, comme on dit, ou est-ce que c'était un songe mystique? Ma question, c'est qu'est-ce que vous souscrivez à la thèse au sens fort, parce que c'était aussi une thèse pour l'obtention de son titre de docteur de l'université, de Miguel Assini Palacios, au niveau de ce qu'il a fait comme recherche et de ses emprunts et de ce pastiche, pour ne pas dire carrément un plagiat?
Cela me paraît probable, mais la Divine Comédie ne peut pas être réduite quand même à ce plagiat. C'est une grande œuvre.
Vous avez raison, Nedim Goursel, bien entendu, de dire qu'on ne peut pas la réduire à cela. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons avec vous, Nedim Goursel, de la seconde vie de Mahomet, cette présentation de la figure prophétique de l'islam dans la littérature. Vous êtes professeur à l'INALCO, chercheur au CNRS, essayiste, romancier et auteur de nombreux ouvrages. Alors, nous avançons maintenant. On n'est plus au Moyen-Âge. On n'est plus à l'ère des confrontations directes et de l'excès. On est maintenant à l'Aufklärung. Donc, les Lumières vont s'accaparer ou s'approprier ou s'intéresser, à tout le moins, à la figure prophétique, au prophète de l'islam.
Oui, le siècle des Lumières voit la personne de Mahomet, comme c'est le cas chez Voltaire, peut-être encore un faux prophète, mais en même temps, il y a un effort pour le rendre plus véridique. Par exemple, dans sa tragédie, Le fanatisme ou Mahomet le prophète, Voltaire essaie d'attaquer en fait l'Église catholique à travers la figure du prophète.
Par ricochet.
Voilà. Et curieusement, on peut résumer sa position à cela. Et d'un côté, il considère que l'islam est une religion tolérante. Donc il y a cet élément positif dans l'islam car il combat l'Église catholique. Mais en même temps, dans sa tragédie, il continue à faire de Mahomet un imposteur, quelqu'un qui est rusé, qui a une force de persuasion, mais en même temps, il est fourbe. Voilà. C'est pour cela qu'il l'appelle d'ailleurs Tartuffe en armes.
Tartuffe en armes, parce que jusqu'à présent, sa sincérité est mise à mal. On est encore sur la thèse de l'imposture. Combien même il se serait dévoyé, on le verra par la suite. Certains disent que sous l'effet de ce qu'il pense, ce qu'il croit être la vérité, c'est peut-être quelque chose de déviant, mais au moins sa sincérité était reconnue plus tard. Mais avec Voltaire, pour l'instant, c'est un fourbe et donc c'est Tartuffe en armes. C'est ça l'idée dans le fanatisme, dans cette pièce, cette tragédie, qui sera joué, puis arrêté, puis reprendra quelques années plus tard,
notamment à Genève. Ce qui est pour moi inadmissible, c'est que récemment, cette pièce a failli être mise en scène à Genève en 1993, mais il y a eu une forte pression. Donc la représentation de la tragédie de Voltaire à Genève a été annulée.
Oui, et nous savons dans quel contexte et pourquoi. Et c'est malheureux que les autorités genevoises eussent cédé à cette pression.
Donc une pièce qui a été mise en scène il y a plus de deux siècles, en quoi est-ce que elle peut peut-être un peu déranger certains, mais ils n'ont qu'à ne pas aller la voir. Ce n'est pas une raison pour interdire une pièce. J'ai été poursuivi en justice pour avoir écrit un roman, Les filles d'Allah. J'ai été accusé
de
dénigrement des valeurs religieuses. Mais un livre ne peut pas nuire si les gens pense qu'il n'est pas bon ou qu'il est blasphématoire. Ils n'ont qu'à ne pas le lire, c'est tout.
Ou à y réagir plus tard avec un autre livre et le débat se fera par livre interposé.
Ce serait encore mieux.
Je ne pensais pas que nous allions aborder ce sujet comme ça, mais je vous en remercie. Ça me permet de dire qu'en 1937, au Caire, il y avait ce livre de mémoire de Adel Adham Ahmed intitulé « Pourquoi je suis athée ?» Et que penseriez-vous, cher Nedim Goursel, qu'on ait fait de son auteur? Rien. On ne l'a pas décapité, on ne l'a pas brûlé vif dans une cage, on ne l'a pas bastonné, on ne l'a pas fouetté publiquement. Rien de tout cela. Et au bout de quelques temps, un autre livre est édité intitulé « Pourquoi je suis croyant ?». Et le débat entre les deux auteurs se faisait par livres interposés, dans la sérénité et le calme qui sied aux rencontres intellectuelles. Cet épisode-là est malheureusement inimaginable maintenant dans le Caire du XXIe siècle, alors qu'on s'apprête à en manger deux décades. Je souligne, et je vous remercie Nedim Goursel de mettre le doigt là-dessus, la régression tragique au niveau des débats intellectuels. Le procès qu'on vous a intenté pour un ouvrage, l'opposition à la représentation de cette pièce, sont des choses inacceptables, parce que ça heurte la liberté d'expression.
Voilà, qui est une des valeurs fondamentales de la démocratie.
Oui, alors reprenons notre cours. C'est la première fois que dans cette émission, je m'arroge le droit de dire quelque chose alors que je ne suis là que médiateur et je pose des questions. Continuons. Bon, les choses finalement s'arrangent petit à petit après Voltaire. Vous passez à Goethe et notamment à son divan. Donc, ce qui était frappant, c'est que le poète qu'il fut mélangeait certains versets du Coran avec sa propre poésie, et cette broderie, ce mélange donnait quelque chose de formidable en langue allemande.
Oui, tout à fait. Bon, Goethe est une très grande figure de la poésie allemande, mais aussi de la littérature mondiale. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé le terme Weltliteratur. C'est déjà une ouverture vers d'autres cultures, d'autres civilisations. Et dans ce contexte, on peut dire qu'il a vraiment réussi à comprendre un peu l'autre. Dans son livre « Divan, Orient et Occident », il se réfère souvent au Coran. Il y a ce jeu d'intertextualité que j'ai essayé d'analyser dans mon livre. Et il transpose parfois des sujets de son époque dans le contexte coranique. Et nous avons aussi chez Goethe une perception de Mohammed tout à fait positive. Il a eu le projet d'écrire une tragédie. Le texte est resté inachevé et dans cette tragédie qui a été perdue mais retrouvée par la suite, nous avons pour la première fois peut-être dans la littérature occidentale une image positive du prophète de l'islam.
Oui, le point d'inflexion se fait là et donc ça reprend de cette fameuse légende noire encore une fois. Les couleurs s'éclaircissent et elles deviennent vive, chatoyante, je continue dans la métaphore. Il y a un passage connu dans le corpus coranique, c'est l'astrolatrie d'Abraham. Abraham commence par adorer les étoiles, et puis comme elle décline, il dit « ce serait plutôt la lune parce que c'est plus grand et ça brille un peu mieux ». Et comme la lune disparaît elle aussi, il dit « c'est le soleil ». Puis comme il n'y a plus de soleil à la tombée de la nuit, petit à petit, ça chemine à adorer celui qui n'est pas enclin au déclin. Et là, Goethe reprend ce passage, il le brode en quelque sorte avec sa propre production. Ça, c'est un exemple frappant de ce mélange emprunté au Coran et à l'imagination du poète qu'il fut.
Malheureusement, il n'a pas achevé ce projet. Par contre, dans son divan, par exemple, il cite quelques versets et puis il ajoute de lui-même d'autres éléments, comme par exemple dans ce petit passage, je le cite, « Adieu et l'Orient, adieu et l'Occident ». Et puis il continue, « Les contrées du Nord et du Sud reposent dans la paix de ses mains ». En se référant là. Donc là, il y a d'autres passages beaucoup plus longs. T'annoncerai-je sur qui descendent les démons? Ils descendent sur tout imposteur plein de péchés. Ils leur communiquent les bribes qu'ils ont saisies, mais la plupart d'entre eux sont menteurs. De même, les poètes sont suivis par les errants. Ne vois-tu point qu'en chaque vallée, ils divaguent et disent ce qu'ils ne font point. La référence à la sourate des poètes est tout à fait explicite ici.
Oui, la fameuse sourate 26. Voilà.
Et à travers donc le Coran, il interroge en quelque sorte l'inspiration poétique qu'il va défendre et qui est un peu différente évidemment de l'inspiration, de la révélation proprement dite. Et c'est très intéressant l'attitude d'un grand poète qui est inspiré en principe, mais il réfléchit en même temps sur la révélation, et c'est ce qui va être aussi le cas de Rilke, un autre grand poète de la langue allemande, qui va écrire ce fameux poème sur justement la révélation, quand Mohammed a reçu donc la révélation dans la grotte de Hira. Rilke, évidemment, est un poète, entre guillemets, inspiré, et aussi il s'est beaucoup intéressé notamment dans les élégies de Dino à la hiérarchie des anges, donc il avait un rapport avec l'invisible un peu plus poussé par rapport aux autres poètes.
Oui, et à l'évocation de Rainer Maria Rilke, et notamment dans ses lettres à un jeune poète, Xaver Capus, il y a je ne sais plus quel numéro, mais en tout cas c'est celle du mois de mai 1914, où il lui dit l'importance de l'élément féminin, cette femme qui touche à la vie par le fruit de ses entrailles que ne connaît pas l'homme, ce mâle prétentieux et impatient. À la fois Rainer Maria Rilke s'intéresse à la révélation, Goethe essaye même de s'en inspirer pour sa poésie, d'autant plus, je ne sais pas comment ça a été rendu en langue, en allemand, qu'elle est assonancée et elle est rimée, et notamment lors de la période mécoise. Ces rimes-là, Goethe a essayé de les reprendre en allemand. Ça montre à tout le moins sa sympathie et son intérêt et pour la révélation coranique et pour la figure prophétique.
Je crois que ce rapport à la poésie fut à l'époque de l'émergence de l'islam fondamental, parce que par les gens de sa propre tribu, Mahomet a été considéré comme poète, sinon comme fou, ou bien inspiré par les djinns, alors qu'il n'a pas cessé de leur dire qu'il ne faisait que transmettre la parole divine. Donc, cette question-là revient des siècles plus tard chez les grands poètes. Révélation et inspiration poétique restent un des éléments importants de l'évolution de la construction de l'image du prophète.
Et à juste raison, vous évoquez le fait que le Coran vient en défendre, plaider la cause du prophète en disant que c'est un apôtre bienfaisant, ce n'est pas un poète qui est sous une inspiration, soit d'un djinn ou d'un génie, ou vous autres en interpellant, en tout cas ses contributeurs, qui êtes de peu de foi. Ce rapport à la poésie est quand même ambivalent dans le Coran, parce que à la fois le Coran se présente pour frapper l'imaginaire des poètes arabes, mais en même temps en déniant, dans la sourate des poètes, à la poésie d'égaler, bien entendu, en autoréférence, la révélation coranique.
Oui, pour moi, il y a une ambiguïté, mais je pense qu'on peut faire une lecture du Coran dans ce sens-là, dans le sens que vous venez de dire.
Ça nous fait sortir un peu du sujet, c'est que comme on reprochait le 11, c'était toute la partie chrétienne qui le présentait comme un schismatique, un hérésiarque, un hérétique, voire un cardinal qui n'a pas été élu à la papauté, dans certaines versions un rabbin voulant se venger du christianisme, etc. Et de surcroît, n'ayant pas de miracle comme tous les prophètes, or de l'autre côté, le seul miracle, mais oh, quel miracle, c'est
la parole coranique,
qui est inimitable. Bon, on est en train de revoir de nos jours la question de l'inimitabilité. Vous pensez aussi que ce texte, cette parole qui n'est ni de la prose ni de la poésie, a frappé et défié et continue à défier, en tout cas, les Arabes et leur éloquence?
Ah oui, je le pense. Et moi, je dirais aussi que c'est étroitement lié tout de même à la poésie anti-islamique. Il y a eu de très grands poètes comme Imrul Qais, comme d'autres. Donc, en Arabie de cette époque, la présence de la parole poétique a peut-être joué un rôle dans, je dirais, l'éducation, entre guillemets, du prophète. Quand j'entends le texte coranique, je ne peux pas être indifférent à ce rythme, parfois à cette force, n'est-ce pas, de la langue arabe. Malheureusement, je ne peux pas le lire en arabe. J'ai lu le Coran dans ses traductions turques ou françaises. Mais il y a une parole qu'on peut considérer poétique et qui traverse le texte. C'est indéniable, notamment dans les versets, par exemple, sur le Kiamet.
Oui.
Une sorte de cataclysme cosmique quand les étoiles vont tomber sur la terre, etc. Et puis, il y a parfois des élans comme ça, poétiques, c'est indéniable.
Et qui se trouve, nous le disons pour nos amis auditeurs, à la fin du Coran, du corpus en tant que tel, alors qu'en réalité, ça relève plutôt du début de la révélation. Oui, je vous en prie.
Oui, oui, vous avez raison de souligner. C'est surtout dans les sourates de la période mécoise que nous rencontrons ce lyrisme ou, disons, cet élan poétique.
Oui, d'abord, les sourates étaient courtes et c'est parce qu'on a procédé au classement des sourates selon l'ordre décroissant qu'on les retrouve actuellement à la fin du corpus en tant que tel, et ce qui déroute parce que ce n'est pas l'ordre chronologique. Vous évoquez Voltaire quand il dit qu'il n'y comprend pas grand-chose. Et on lui avait lu ailleurs que c'était une rhapsodie sans ordre, ni art, ni liaison. Question d'islam. Vous parlez de votre ouvrage « La seconde vie de Mahomet, le prophète de l'islam dans la littérature ». Vous enseignez à l'INALCO, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes romancier aussi, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont l'un vous a valu quelques ennuis avec l'administration turque, ce qui est en soi bizarre, et le mot est très euphémistique, ce sont les filles d'Allah. En progressant dans la lecture de votre ouvrage, on arrive à Lamartine, et Lamartine a plutôt une présentation sympathique de l'homme et de son œuvre.
Il s'est donné tout de même la peine d'écrire une biographie et qui se veut historique du prophète, en suivant de près la Sira. Le texte de Lamartine est tout à fait conforme à la Syrah. Donc, lors de son séjour en dans l'Empire ottoman, aussi en Palestine, donc il a dû étudier et lire des livres historiques. Alors, pour Lamartine, il n'est pas du tout un imposteur, loin de là. C'est un homme qui est inspiré, qui a vraiment cru à cela, à sa mission. Et pour cette raison, Lamartine considère que Mohammed est un vrai prophète et pas un faux prophète.
Oui, alors ça a poussé certains à dire, bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas reconnu le Coran comme parole de Dieu, mais le fait de reconnaître la prophétie mohammedienne et comme il était croyant déiste, ça faisait de lui de fait un musulman au sens étymologique du terme, celui qui reconnaît la divinité plus la prophétie mohammedienne. Contrairement à Chateaubriand qui lui persistait à présenter un peu selon la présentation classique et hanté siècle des Lumières. Vous nous dites que Alphonse de Lamartine était plutôt dans une logique de reconnaître la sincérité de l'homme.
Tout à fait. Ce qui est rare chez, disons, les grands poètes. Il y a eu Goethe, on l'a dit, il y a eu Lamartine un siècle plus tard, peut-être Rilke un peu, mais Chateaubriand qui est une grande plume, par ailleurs, qui est une grande figure de la littérature française, eh bien, son regard sur l'Orient et sur l'islam est tout à fait négatif. Mais il n'est pas tellement impliqué, je dirais, par cette question-là.
Oui.
Parce qu'il est l'auteur du génie du christianisme.
Voilà, ce qui l'intéresse, c'est plutôt de présenter et d'une manière apologétique le christianisme. Les autres religions, et notamment celles qui s'apparaissaient comme étant rivales, ne l'intéressaient pas. En revanche, Alphonse de Lamartine, pardonnez-moi de dire que dans un de ses passages, il parlait de la grandeur du résultat, de l'immensité du dessein et de la petitesse des moyens qui font de Mahomet un génie. Et il ajoute, il est plus qu'un homme, moins qu'un dieu, c'est un prophète. Donc il reconnaît, j'allais dire, le souffle prophétique dans l'œuvre de l'homme.
Oui, vous avez tout à l'heure prononcé le mot « sincérité ». Je pense qu'il convient tout à fait à ce que pensait Lamartine de Mahomet. Je vais vous citer juste un passage de son livre. « Cet homme était-il un imposteur ? Nous ne le pensons pas, après avoir bien étudié son histoire. L'imposture est l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction, comme le mensonge n'a jamais la puissance de la vérité. Il y avait deux hommes en lui, l'inspiré de la raison et le visionnaire de l'extase. » Je crois que ça résume assez bien la position de Lamartine, ce passage.
Oui. Alors, maintenant, on passe à peut-être à deux autres. D'abord, Victor Hugo, bien entendu. Les premiers temps, il était un peu réticent, voire dans une posture négative. Et après, les choses s'arrangent, notamment... bien sûr, dans la Légende des siècles et dans l'an 9 de l'Égire.
Ah oui, évidemment, dans la Légende des siècles, Victor Hugo ne pouvait pas faire autrement. Il fallait qu'il se réfère quand même à ce grand événement de l'histoire planétaire que fut l'islam, la naissance et l'expansion de l'islam. Alors, Hugo semble avoir lu le Coran et il est aussi au courant de la vie...
Il l'a lu dans la traduction de Kazimierski.
De Kazimierski, voilà, tout à fait. Alors, nous avons affaire chez Hugo à un personnage plutôt modeste et je dirais sympathique. Par exemple, l'auteur des Misérables écrit ceci à son propos. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. C'est ce que la tradition raconte aussi. Mais aux yeux donc de Victor Hugo, Mohammed n'est qu'un être humain. Et contrairement à la légende dorée répandue par ses premiers biographes musulmans, il n'est pas exempt de tout péché. Je cite Victor Hugo, qui fait parler donc le prophète, qui dit ceci. « Moi, comme être vivant, retenez bien ceci, je ne suis qu'un limon par les vices noircis. » Ça peut un peu choquer les croyants, mais le Coran aussi le dit à un moment donné. Ça dit que le prophète n'est pas exempt de tout péché, alors que la légende dorée l'affirme.
Oui, l'histoire de l'infaillibilité, le Coran lui-même, dans des passages, le réprimande, si je puis dire, et le prophète lui-même dit « je ne suis qu'un mortel parmi les mortels ». Alors, il nous reste peu de temps, Nedim Gourcel, et j'aimerais bien que nous parlions un peu d'Ernest Renan, qui avait là aussi un regard qui se voulait plutôt objectif pour la biographie du prophète. En revanche, sur l'islam en tant que tel, comme tradition religieuse, etc., c'était une vision négative. Donc, comment peut-on expliquer qu'il présente le prophète de l'islam d'une manière plutôt objective, alors que la tradition qui est venue avec serait plutôt synonyme de la négation de la science, par exemple?
Oui, c'est surprenant. C'est l'inverse de Voltaire. Alors, Renan, du reste, qui n'a pas beaucoup écrit sur l'islam, mais il a fait cette fameuse conférence au Collège de France, et dans cette conférence, en tout cas aujourd'hui le texte existe, il considère que l'islam fut une entrave à tout progrès. Et là, finalement, c'est un peu l'atmosphère positiviste de son époque, n'est-ce pas, qui lui fait dire cela. Mais il est à la recherche d'un personnage historique. Et ça, c'est important car il a aussi écrit, comme chacun sait, un livre remarquable sur Jésus. Bon, son long article sur Mohammed n'a pas eu
le même succès,
mais il me semblait intéressant de connaître un peu le point de vue d'un grand historien des religions du 19e siècle, donc d'Ernest Renan, sur Mohammed. Donc, donc l'islam d'un côté entrave au progrès, mais Mohammed et en plus Ernest Renan prétend que qu'il n'y a pas eu beaucoup de légendes autour de la figure du prophète de l'islam. En tout cas, il dit qu'il y en a eu plus pour d'autres prophètes, ce qui est vrai. Mais quand vous lisez la Sirah, c'est quand même aussi beaucoup de légendes, notamment sur son enfance, sur son orphelinat, et puis sur des tas d'éléments de sa vie. Car historiquement parlant, nous connaissons peu de choses de ces périodes de Mohammed. Donc il a fallu peut-être inventer et imaginer.
Oui. Alors, pour finir avec Ernest Renan, d'un côté, pour lui, l'islam est l'entrave du progrès et même la négation de la science, la question a été dite. Dieu est Dieu, c'est la tautologie dont il parle, alors que son prophète est plutôt dépeint d'une manière objective. Donc, c'est l'inverse de ce qui s'est passé avec Voltaire. Si on progresse, là, pour le temps qui nous reste, et pardon, Nedim Gourcel, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais d'une manière très ramassée, la période contemporaine, Vous avez présenté Mahomet dans la littérature actuelle. Assia Djebbar, l'académicienne qui nous a quittés, Salman Rushdie, Salim Bashi, par exemple, Driss Shaibi, cela, comment le présente-t-il?
Alors, ce que je remarque, c'est que à notre époque, les romans qui parlent du prophète de l'islam, c'est-à-dire les romanciers qui ont essayé de faire de lui un personnage fictif, appartiennent pour la plupart à la tradition francophone maghrébine. Il y a Driss Shaibi, par exemple, l'homme du livre, qui est un texte très intéressant, où il est question aussi de la révélation. Il y a évidemment Loin de Médine d'Assia Djebbar. Assia Djebbar utilise surtout comme source Tabari, mais elle comble les silences de l'histoire, et le mérite de son roman, entre autres, c'est qu'il y a des personnages aussi féminins qui parlent de Mohammed, qui ont croisé Mahomet. Et puis, il y a évidemment Salim Bashi qui a écrit Le silence de Mohammed, qui suit de très près la Sirah et en citant, en insérant dans son récit les versets coraniques. Mais j'ai aussi étudié Les femmes de l'islam de Marek Alter, qui est une trilogie beaucoup plus populaire, mais intéressante aussi. Évidemment, je ne pouvais ne pas parler des versets sataniques, de l'affaire des versets sataniques, et aussi de considérer ce roman comme une sorte de parodie.
Alors, je vous suggère, Nedim Gourcel, si vous voulez bien, de revenir en parler particulièrement de la période contemporaine et surtout de ces sujets-là, puisque là nous arrivons au terme de notre émission. Merci, merci de nous avoir édifiés par vos propos qui se trouvent de cette enquête, cette présentation dans votre livre, La seconde vie de Mahomet, le prophète dans la littérature, aux éditions du CNRS. C'était Question d'Islam, chers amis auditeurs. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.